Je vous invite de nouveau à la prière pour ce temps de prédication. Notre Père, effectivement, merci parce que c'est ton esprit qui agit dans notre vie. Nous l'avons rappelé la semaine dernière à l'occasion de la Pentecôte. Et c'est vrai que la Pentecôte, c'est tous les jours. C'est tous les jours que ton esprit est là, comme nous l'avons chanté. Et nous te prions pour que ton esprit puisse encore nous guider dans la compréhension de ta parole. Merci parce que tu te révèles à nous et c'est au travers de ton esprit que tu nous atteins, que tu nous touches et que tu nous conduis. Amen. Qui est Jésus? À travers des épisodes de la vie de Jésus, Luc, l'auteur de l'Évangile selon Luc, veut montrer au lecteur qui est Jésus. Mais pas seulement. Il veut aussi montrer quelle relation Jésus souhaite avoir avec nous, quel regard est-ce qu'il porte sur nous et quel appel il nous adresse. Les Évangiles ne sont pas là et la Bible n'est pas là juste pour nous raconter qui est Jésus, mais aussi pour nous montrer cet appel qu'il nous adresse. Quelle relation est-ce que lui souhaite avoir avec nous et quelle relation nous souhaitons avoir avec lui? Ce que je trouve intéressant avec la Bible, c'est qu'elle n'est pas réduite à une liste de commandements. La Bible aurait pu juste être une révélation pour dire voilà comment est Dieu et voilà ce qu'il vous demande de faire. Mais ce n'est pas ça. La Bible contient beaucoup de récits, beaucoup de dialogues, beaucoup d'histoires avec des personnages, car nous pouvons comprendre qui est Jésus en regardant comment il se comporte avec les êtres humains, comment il se comporte avec les malades, avec les personnes éprouvées, comment il se comporte avec les riches, comment il se comporte avec les représentants religieux, comment il se comporte avec la foule, etc. Le texte que je vous propose de lire ce matin se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, les versets 12 à 26. Et donc ce passage fait partie d'une série de prédications que nous avons commencé il y a plusieurs mois déjà. Luc 5, versets 12 à 26. Ah, ça s'est arrêté de s'afficher. Ça ne s'est pas affiché tout à l'heure ? C'est comme avec Dieu, si on n'est pas connecté avec lui, il ne peut pas y avoir de communication. Luc 5, 12 à 26. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner des péchés, si ce n'y est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Ce texte, en fait, contient deux récits, mais ils ont des points communs. L'auteur, Luc, aime bien mettre des récits par binôme. Parfois, il semble ne pas être en lien, mais lorsque l'on creuse un peu, les récits se complètent et apportent des enseignements en commun. Dans notre texte, il y a deux guérisons. La guérison du lépreux, puis la guérison du paralytique. C'est déjà un point commun évident. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir les circonstances dans lesquelles les guérisons sont faites. Et de ce côté, il semble y avoir des différences, mais aussi des points communs. Commençons par regarder les rapports entre Jésus et les malades, en commençant par le lépreux. Au temps de Jésus, la lèpre était une maladie assez répandue. Elle faisait des ravages. Il s'agit d'une maladie qui affecte la peau et le système nerveux, et on ne savait pas comment guérir cette maladie. Certains malades ont pu voir leur état s'améliorer, mais les guérisons totales étaient rares. Les lépreux sont couverts de plaies. Et comme c'est une maladie contagieuse, on isolait les malades. Ils étaient coupés de la société. On imagine que lorsque le lépreux a vu Jésus, il a dû avoir une poussée d'adrénaline. Il avait l'espérance que Jésus pouvait le guérir. Il tombe le visage contre terre et s'adresse à lui avec cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce geste de tomber le visage contre terre est une marque d'humilité. Ce lépreux supplie Jésus de le rendre pur, de le guérir. Il ne pose pas la question « Jésus, peux-tu me guérir ?» Non, il parle avec assurance « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il affirme que Jésus est capable de le guérir s'il le veut. C'est une confession de foi. C'est avec confiance que ce lépreux supplie le Seigneur. On note aussi que même s'il est affirmatif et confiant, il ne donne pas d'ordre à Jésus, comme si Jésus était à ses ordres, comme si Jésus était un outil magique, comme s'il disait « Abracanabra, fais que je sois guéri ». Non, c'est une prière confiante, car il confesse que Jésus peut le guérir si il le veut. Cela sous-entend que Jésus pourrait ne pas le guérir s'il ne le veut pas. Dans tous les cas, il ne remet pas en cause la capacité de Jésus à guérir. Que fait Jésus ? Il répond « Je le veux » et il le guérit. Lorsque Jésus accomplit un miracle ou une délivrance, ce n'est pas parce qu'on le lui ordonne ou parce qu'on a fait quelque chose pour le mériter. Lorsque Jésus agit en notre faveur, c'est parce qu'il l'a voulu. Nous pouvons tout de même mentionner la foi du lépreux dans cette histoire. C'est par la foi qu'il a supplié Jésus. La foi ne garantit pas que Jésus répond favorablement à toutes nos demandes, car Jésus répond comme il le veut. En revanche, la foi ouvre la porte à l'action du Seigneur. Intéressons-nous maintenant au paralytique. Les amis du paralytique souhaitent l'amener à Jésus. Le texte ne nous dit pas exactement pourquoi est-ce qu'ils veulent tant l'amener à Jésus, mais l'on devine que c'est pour demander la guérison. Cependant, ils font face à un obstacle, la foule. La foule les empêche de passer. On imagine qu'ils ont dû essayer de forcer le passage, mais la foule devait être grande et peu de gens voulaient les laisser leur place. Confrontés à cet obstacle, ils ne se résignent pas. Ils décident de passer par le toit. Les maisons de l'époque avaient un toit plat et on pouvait y accéder par un escalier. Grâce à une ouverture, ils ont pu faire descendre le malade devant Jésus. Lorsque le paralytique arrive en bas, Jésus est impressionné par la foi de ces hommes. C'est ce qui est dit dans le texte, que Jésus voit leur foi. Le texte ne mentionne pas la foi d'un seul homme, mais de plusieurs. Le texte dit bien qu'il voit leur foi, celle du paralytique et celle de ses amis. Ce passage est l'un des textes qui montre que la communauté chrétienne, les frères et sœurs dans la foi, lorsqu'ils s'unissent dans l'intercession, eh bien cela a de l'importance aux yeux de Dieu. La prière personnelle est importante et la prière communautaire est aussi importante. En voyant leur foi, Jésus prononce le pardon des péchés pour le paralytique. La plupart des gens attendaient certainement de voir une guérison, mais au lieu de cela, Jésus pardonne ses péchés. Avant de voir un paralysé qui a besoin de marcher à nouveau, Jésus a d'abord vu en cet homme un pécheur qui a besoin du pardon de Dieu. Jésus connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Parfois, nous venons à Dieu avec des demandes et il ne nous exauce pas exactement comme nous l'avons demandé. En fait, il ne nous donne pas toujours ce dont nous pensons avoir besoin, mais il nous donne ce dont nous avons réellement besoin. Si Jésus avait demandé au paralytique ce qu'il voulait, il aurait probablement répondu « Je veux marcher et pouvoir bouger ». Mais Jésus ne pose pas la question ici. Jésus ne laisse pas à l'homme l'occasion d'exprimer ce dont il a besoin. Il sait ce dont il a le plus besoin, le pardon des péchés, pour être en paix avec Dieu. Cette démarche de Jésus peut nous choquer. En tout cas, cela m'a interpellé, parce que le paralytique est d'abord considéré comme un pécheur avant d'être considéré comme une victime. Qu'a-t-il pu faire de mal? Il ne pouvait pas être violent, il ne pouvait pas voler, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il était plutôt victime d'une maladie. Il était plus à plaindre qu'à être présenté comme un pécheur. Pourtant, Jésus le considère comme un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Il voit un malade arriver devant lui et il lui accorde le pardon des péchés. Car avant d'être un paralytique, cet homme est un pécheur. Je crois aussi qu'il faut revoir notre conception de ce qu'est un pécheur. Un pécheur, ce n'est pas forcément une personne sans aucune morale. Selon la Bible, un pécheur est une personne qui ne marche pas selon le plan de Dieu. Péché, en hébreu, signifie manquer la cible. Lorsque la direction que je choisis pour ma vie est différente que la direction que Dieu a prévue pour moi, je rate la cible. Je suis un pécheur. Adam et Ève ont mangé un fruit alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ainsi, ils ont péché. On peut donc pratiquer beaucoup de bien autour de nous tout en ratant la vocation pour laquelle Dieu nous a créés, celle qui est de lui rendre gloire. Dans ce cas, nous avons besoin qu'il pardonne notre manquement, notre péché. Le paralytique, bien que victime, bien que dans l'incapacité de faire du mal, avait bien besoin du pardon des péchés. Et comme pour le lépreux, la foi de celui-ci a ouvert la porte à l'action de Jésus. Ses péchés ont été pardonnés. Ce qui suscite une vive réaction intérieure des représentants religieux. Regardons donc maintenant le rapport entre Jésus et les représentants religieux. Dans le premier récit, avec le lépreux, les pharisiens et les spécialistes de la loi ne sont pas mentionnés. En revanche, Jésus dit une parole qui pourrait faire référence à ces personnes. Parce que lorsque Jésus guérit l'homme malade, il lui ordonne de n'en parler à personne. Et en même temps, il lui dit « Va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Dans la loi de Moïse, lorsqu'un lépreux était guéri, il devait aller voir un prêtre pour offrir des sacrifices, et ensuite le prêtre validait sa guérison, et il le déclarait pur. Et donc par ce moyen, par ce sacrifice et par cette déclaration du fait qu'il soit pur, l'homme guéri était officiellement réintégré dans la société. Il pouvait de nouveau côtoyer les gens sans s'isoler. Il était déconfiné, car il n'est plus contagieux. Jésus demande simplement donc à l'homme guéri d'obéir aux lois juives de l'époque. Mais il ajoute « afin que cela leur serve de témoignage ». Que cela serve de témoignage à qui ? Il demande d'aller voir un seul prêtre, va voir le prêtre. Mais il dit que cela leur servira de témoignage. Il parle donc de plusieurs personnes. Il doit certainement parler des autorités religieuses, des représentants religieux. Mais quel est ce témoignage ? Afin que cela leur serve de témoignage. Témoignage de quoi ? On peut penser à trois hypothèses principales. Premièrement, Jésus pourrait faire référence à la guérison. Le témoignage serait donc un témoignage de guérison de la part de Jésus. Mais cela n'est pas très cohérent avec sa demande de n'en parler à personne. S'il doit témoigner de sa guérison, et en même temps, il doit parler à personne, ce n'est pas très, très plausible. À moins qu'il veuille mettre au courant seulement les représentants religieux. Deuxièmement, Jésus pourrait faire référence au fait que lui-même respecte la loi. C'est un témoignage comme quoi Jésus respecte la loi. Et dans ce cas, il montre aux autorités religieuses qu'il suit bien la loi de Moïse. Et troisièmement, Jésus pourrait faire référence à lui-même. La Bible Semeur traduit le verset 14 ainsi. Il lui recommanda de ne dire à personne ce qui lui était arrivé, mais, lui dit-il, va te faire examiner par le prêtre et, pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Cela leur prouvera qui je suis. Donc, un témoignage rendu à Jésus, cela leur montrera des indices sur qui est Jésus. Et donc, dans cette Bible version Semeur, les autres compréhensions possibles sont indiquées dans une note. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les trois manières de comprendre la phrase, mais si nous regardons le contexte général, dans le livre de Luc et le contexte même de ce passage, notamment le récit suivant avec le paralytique, il se pourrait que la Bible Semeur ait choisi une option assez plausible en traduisant « Cela leur prouvera qui je suis ». Ainsi, Jésus donne des indices aux autorités religieuses afin qu'ils se demandent « Mais qui est Jésus ? Est-il le Messie ?» Et finalement, c'est un peu le fil conducteur, l'un des fils conducteurs de l'évangile selon Luc, de laisser des indices pour que ceux qui côtoient Jésus se demandent qui est-il. Cela nous amène au deuxième récit. Relisons les versets 21 à 24 sur le rapport entre Jésus et les autorités religieuses. Après avoir pardonné les péchés du paralytique, les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est cet homme ?» qui profère des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Jésus guérit le paralytique pour quelle raison ? Verset 24, pour leur prouver qui il est, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme est une expression que Jésus utilise pour parler de lui en tant qu'envoyé de Dieu. Il me semble que notre texte de ce matin, qui contient deux récits de guérison, a pour but principal de nous interpeller sur cette question : qui est Jésus ? Qui est cet homme qui guérit par une simple parole ? Parce qu'en fait, à l'époque, lorsqu'il y avait des guérisons, les guérisseurs qui invoquaient des esprits, etc., avaient des incantations, avaient des objets, avaient des rituels. Mais Jésus guérit par une simple parole. Qui est cet homme qui guérit par une simple parole ? Qui est cet homme qui pardonne les péchés ? La foule est dans ce questionnement. Intéressons-nous donc maintenant à la réaction de cette foule. Ce sera mon troisième point. Et en même temps, ma conclusion. Dans les deux récits, on a l'impression que la foule est gênante. Relisons ce qui se passe après la guérison du lépreux, au verset 15. On parlait de plus en plus de lui, donc de Jésus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc la foule arrive. Et que fait Jésus ? Il se retire dans le désert pour prier. Au lieu de profiter de sa célébrité pour montrer sa gloire aux foules, il se retire à l'écart pour prier, comme si la foule le gênait. Alors ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que nous avons dans un premier temps. Et dans le deuxième récit, la foule est gênante, parce qu'elle ne laisse pas passer le paralytique. Ce que l'on peut dire, c'est que Jésus a toujours, à chaque fois, un juste rapport avec la foule. Il ne profite pas de sa renommée pour avoir une sorte de mainmise sur la foule et pour se glorifier lui-même. De nos jours, les célébrités cherchent à avoir toujours plus de fans. Les youtubeurs, les blogueurs, veulent toujours plus d'abonnés, et les églises peuvent être tentées de faire du chiffre pour une certaine satisfaction. Ne tombons pas dans ce piège. Jésus, lui, ne s'intéresse pas à la foule en tant que telle, mais il s'intéresse à chaque personne qui se trouve dans la foule. C'est pour cela qu'il se retire souvent pour prier, pour enseigner de manière appropriée dans chaque situation. Et c'est pour cela que Jésus enseigne aussi la foule, parce qu'il s'intéresse à chaque personne de manière particulière. C'est pour cela qu'il s'intéresse aux lépreux, c'est pour cela qu'il s'intéresse aux paralytiques et à ses amis, aux chefs religieux, pour toucher chaque personne de manière personnelle. Qui est Jésus ? Nous ne sommes pas appelés à répondre à cette question en théorie, mais à prendre position personnellement, car c'est une relation individuelle qu'il souhaite avoir avec nous. Tout comme le lépreux qui est tombé à genoux devant Jésus, tout comme le paralytique et ses amis qui ont persévéré pour arriver au Christ, nous aussi cherchons toujours à être proches de Jésus et à lui remettre notre vie entière. Amen. Je vous invite à la prière.